bien déchiffré, décortiqué, décodé. Voici Jean-Luc Mongrain.
Claude Julien est revenu chez lui et il a subi une intervention que l'on connaît, dont on entend parler, mais qu'on connaît peu. Le vrai mot, c'est endoprothèse dans une artère coronarienne. Il a fait ça hier à Toronto. En fait, c'est un stand. Puis tout le monde, ça arrive souvent qu'on a ça, là, semble-t-il, chez bien des gens. Paul Poirier est docteur cardiologue et responsable du programme de prévention et de réadaptation cardiaque à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour, docteur Poirier.
Bonjour, M. Mongrain, ça va bien?
Bien, merci. Écoutez, on va parler de Claude Julien juste deux minutes, puis après ça, je veux parler de prévention. Parce que ça nous arrive, on ne sait même pas que ça va arriver, puis d'un coup, pouf, on a une pression sur l'estomac. Première chose qu'on sait, on le transporte à l'hôpital, puis ils nous mettent un spring dans les veines, dans les artères.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ça?
C'est exactement ça. Écoutez, c'est super important. Monsieur Julien, il a eu une douleur dans le thorax.
OK.
Dans la nuit. OK?
Oui.
C'est classique. Les infarctus, les angines, se font surtout entre 1h le matin et 10h le matin.
Mais voyons donc, il relaxe à 1h et 3h du matin?
Pas nécessairement, parce que dans la nuit, les plaquettes qui forment le caillot sont activées. L'adrénaline commence à monter au petit matin. Le cortisol commence à monter au petit matin. Il y a une composante de spasme, donc de crampe des artères. Et physiologiquement, quand on regarde les études, c'est entre 1h du matin et 10h le matin que les infarctus, au même titre que les ACV au niveau cérébral, même affaire. Alors, ça fit exactement comme ça devrait être. Deuxième chose, le gars, il a une douleur dans le thorax. Douleur dans le thorax, trois organes dans ce coin-là. Le poumon, le cœur puis l'estomac. On va aller au plus urgent puis au plus dangereux, réglons le cœur. Puis si c'est pas ça, bien, ça sera les deux autres.
Parce que c'est des douleurs qui peuvent être semblables, qui peuvent nous confondre. Je veux dire, moi, un spasme œsophagien, ça fait mal en maudit. J'en ai déjà eu un.
Absolument, absolument.
Là, tu dis, ça y est, je suis parti. Moi, je m'en vais-tu chez Urgel Bourgie ou bien non, si je m'en vais à l'hôpital?
Oui, bien, je vais vous dire qu'un spasme œsophagien, ce qui est encore plus sacrant de cette symptomatologie-là, c'est que c'est la même douleur, la même genre de présentation que l'angine, et quelqu'un qui a de la nitro, ça va soulager le spasme parce que c'est un muscle. Fait que la nitro, qu'on prend pour l'artère du cœur, va soulager aussi le spasme œsophagien. Mais c'est aussi bien de te présenter à l'urgence parce que l'acidité de l'estomac est allée stimuler ton œsophage qui a spasmé, puis dire, ben je me suis trompé, mais au moins c'était juste l'estomac, que dire, ben j'aurais donc dû.
Est-ce qu'il y a des... Tu sais, on parle de prévention, là. Vous voulez me parler de prévention. La meilleure prévention...
Mais c'est vous qui
avez
dit ça.
Ouais, ben non, ben c'est marqué, le programme de prévention.
Oui.
Je vais en parler un peu. Est-ce que la meilleure prévention, ce serait pas l'hygiène de vie avant de parler de gestes d'intervention médicale?
C'est clair. Si les gens mangeaient comme du monde, puis je ne dis pas de manger du carton, si les gens faisaient de l'activité physique... Et je ne dis pas de courir des marathons. Si les gens fumaient pas, dormaient bien, puis gardaient un poids santé, on diminuerait les infarctus de 80 %
Pardon?
80 % Il n'y a pas une pilule qui fait ça.
Non, il n'y a pas une pilule qui fait ça.
OK. Alors,
mais si t'es déjà ces pilules, je suis en consultation, moi, là. Si t'es déjà ces pilules.
Le gars, tu m'as pris ça avec ton problème de cholestérol.
oui, c'est ça. J'ai mon problème de cholestérol. 40 mg de Lipitor.
Oui.
Ça, là, c'est quoi? C'est-tu de la prévention? Ou c'est
de la prévention.
OK.
Mais ça vous permet pas de manger vos sandwichs au bacon à tous les jours. Le problème, c'est ça. Là, M. Julien a été réparé. Okay. Fine. Il y a eu une douleur d'ennui, mercredi à jeudi. Jeudi, il passe son cathétérisme. Une artère ou deux, ou peu importe, qui sont dilatables, dilate ça dans la foulée. Vendredi, il est à la maison. Fait qu'il restait à l'hôpital 36-48 heures. Hein? Un homme incarné, c'est pas beaucoup plus long que ça. Hein? Mais lui, là, il aurait pu mourir. Fait que là, il faut diminuer la progression de sa maladie. Elle était présente. Fait qu'il faut diminuer la progression puis lui permettre de vivre des belles années.
C'est quoi? C'est parce que le gars, il dit, j'ai pas le cœur malade. J'ai été chez mon médecin il y a un mois. Tout est beau. Puis là, pouf, trois semaines après, le voilà avec des stents. Qu'est-ce qui est arrivé, là?
Ça, c'est intéressant. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a probablement le stress ici, puis je suis pas capable de le quantifier, OK? Mais le stress joue un rôle, c'est clair. Dans les grandes catastrophes atmosphériques, les feux à Fort Garry, les tsunamis, les tremblements de terre, il y a une augmentation du taux d'infarctus qui est présent dans les urgences de ces villes-là. OK?
Ah ouais.
Donc, le stress est associé à ça. Donc, la gestion du stress est importante. Parce que si tout le monde stressé faisait des infarctus, ben là, on n'aurait même pas de place pour mettre les patients COVID. On serait submergé.
Le docteur François Rise a écrit un livre sur l'environnement et le cœur, là.
Oui.
Planète cœur, je pense. Lui en parle de l'influence de l'environnement sur la santé cardiovasculaire.
C'est clair. On a publié ça dans l'Lancet, à peu près 125 000 personnes. La pollution atmosphérique augmente le taux d'infarctus de 7 à 12 % dépendant de quelle ville, dépendant du statut socio-économique, dépendant de plein de choses. Ça, c'est quelque chose de très tangible. C'est la pollution atmosphérique et l'environnement. Et le stress, il y a le bon stress puis il y a le mauvais stress. Et ça se quantifie. Il y a des tableaux de ça. La mort d'un conjoint, c'est probablement la chose la plus stressante.
Sur l'échelle de...
Sur l'échelle de 100, là, 0 à 100. Okay. 100, c'est la mort d'un conjoint. Puis là, après ça, il y a des bons stress là-dedans. Ben, ça dépend du point de vue, mais le mariage est un effet stresseur aussi.
Juste une question, docteur. C'est un bon stress?
Je savais que vous auriez mis ça. Vous
m'avez ouvert la porte.
Les deux portes étaient ouvertes. Il y a eu un coup de vent. mais écoutez, fait que c'est comme ça. Il y a des bons stress, il y a des mauvais stress.
Ouais.
Si vous allez dans un restaurant, puis vous demandez au serveur un ordre de toast, il peut être dans le jus comme ça, pas de bon sens. Puis la section d'à côté, il y a un autobus qui débarque, puis l'autre serveur est super cool.
Bon, ben écoutez, donc on bouge un peu, on fait attention à son alimentation, et puis on voit son médecin de façon assez régulière, puis on va sauver 80 % des cas. Merci beaucoup, docteur.
Merci, bonne journée.
OK, ciao. Docteur Paul Poirier, cardiologue, qui nous répondait à nos questions là-dessus. Nous autres, il est déjà 13 heures, on s'en va aux informations. Bon, on revient tout de suite, on poursuit.